Tout le monde aime la vie. Parce qu'on ne peut pas ne pas aimer la vie. Et cela m'a fait penser au verset 10 du chapitre 3 de la première lettre de Pierre que nous suivons chaque dimanche, enfin presque tous les dimanches, comme une série de prédications. Qui, le verset 10 dit « Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux ?» Et la question est presque rhétorique. Oui, tout le monde veut aimer la vie. Enfin, c'est même pas une question, mais enfin, voilà. Tout le monde veut aimer la vie et voir des jours heureux, des happy days. Mais Pierre continue en disant, eh bien, qu'il fasse le bien. Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui veut toucher un petit peu au bonheur, eh bien, qu'il fasse le bien. Qu'il fuit le mal et qu'il fasse le bien. Alors, cela paraît facile, mais quand on connaît le contexte de la rédaction de la lettre que Pierre adresse aux chrétiens d'Asie mineure à l'époque, ce n'est peut-être pas aussi facile que cela. Pour rappel, nous sommes donc dans un contexte hostile et Paul écrit à des chrétiens qui sont dispersés dans l'Empire romain, qui sont des résidents temporaires, en tout cas considérés comme tels, juste tolérés, considérés comme au mieux comme des quantités négligeables et au pire soupçonnés d'être des rebelles et des troubles à l'ordre public. L'ordre public qui veut que tout le monde s'agenouille devant l'empereur et lui voue un culte. Et donc les chrétiens sont soupçonnés de vouloir se rebeller. Et donc dans ce contexte d'un témoignage en milieu hostile, Dieu, par la voix de Pierre, veut encourager les chrétiens d'Asie mineure. Mais les encouragements qu'il va leur donner prennent parfois des tournures un petit peu étranges. Il commence par les encourager, c'est le chapitre 1, je fais un petit résumé, à garder l'espérance vivante. Cette espérance pour cet héritage incorruptible qui leur est réservé dans les cieux. On va dire que ça, c'est un encouragement normal. Et puis, il les encourage à maintenir la joie, malgré les épreuves. Alors là, ça commence à être un petit peu plus délicat quand même. Et puis après, il les encourage à mener une vie de sainteté et même une vie de service ou de sacerdoce universel. Là, on aborde le chapitre 2. Et là, ça commence à être beaucoup demandé quand même. Dans un milieu hostile, une vie de sainteté, de sacerdoce. Et puis, il encourage aussi à une vie de soumission. Alors là, Pierre commence à nous énerver. Et comme si cela ne suffisait pas, il va maintenant encourager les chrétiens et les chrétiens de tous les siècles, et nous, par la même occasion, à faire le bien. On a déjà du mal à survivre, mais en plus, il nous demande de faire le bien. Et oui, et Pierre se répète même, vous savez que dans le passage que vous avez lu, il y a 6 fois le mot ou l'adjectif « bien »,« bon ». Et Pierre ne va pas tourner autour du pot puisqu'il va jusqu'à dire, au verset 13 d'ailleurs, « qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ». Pratiquez le bien avec zèle. Et le mot zèle est bien connu à l'époque, puisqu'il désigne une organisation nationaliste de l'époque, les Zélotes, Zélotes, qui depuis l'époque des Maccabées, c'est-à-dire une période intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une période, et un livre a été écrit d'ailleurs sur les Maccabées. Et depuis cette époque, cette organisation nationaliste ne fait que est composé d'un groupe d'hommes prêts à tout sacrifier pour une cause, la patrie, Israël. Ils sont prêts à sacrifier leur confort, leur vie même, pour défendre cette patrie, et même commettre des violences. Et Pierre utilise ce mot très fort, pour le bien, pour parler d'un engagement pour la cause du bien, pas pour une cause nationaliste, mais pour celle du bien. Et on pourrait même parler d'un encouragement à la poursuite agressive du bien, comme les Zélotes. Pas de mollesse dans la pratique du bien. Et on remarquera que Pierre n'est pas dans l'encouragement à se faire du bien, mais dans l'encouragement, comme on l'entend un petit peu partout aujourd'hui, faites-vous plaisir, c'est important. Non, Pierre parle non de se faire du bien, mais de pratiquer le bien, de faire le bien. Et cet encouragement n'est pas anodin, car tout autour de nous semble nous dire La pratique du bien, ça ne paye pas. Ça ne donne rien. Il n'y a pas de retour. Faire le bien, c'est sans résultat. Je vais vous raconter quelques souvenirs, enfin deux. Nous étions avant à Orléans et Yvonne a eu une expérience remarquable dans l'Intermarché d'Orléans. Il se passe beaucoup de choses dans les supermarchés. Juste quelques semaines après notre séjour là-bas, Yvonne a voulu aider une dame âgée à mettre ses bouteilles d'eau dans son chariot, sans lui dire. Et la vieille dame lui a tapé sur les doigts. « Vous voulez me voler ?» a-t-elle dit. Il était évident qu'Yvonne avait l'intention de lui voler toute sa flotte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus loin, un peu plus tard, les membres du personnel d'Intermarché ont fait cette réflexion, et Yvonne l'a entendu. Et voilà, tu fais une BA et on te tape sur les doigts. Tu fais une bonne action et on te tape sur les doigts. Et c'est peut-être l'ambiance un peu générale. Faire le bien, ça ne paye pas. Et celui qui veut faire le bien ne reçoit rien en retour. Et à l'inverse, on voit des gens qui pratiquent le mal et qui réussissent. Et c'est la réflexion du psalmiste qui s'appelle Asaph, dans le psaume 73, et qui nous dit, il essaye de suivre Dieu et il dit, « Pourtant il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, rien de plus, et je tombais. » J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Ils semblent imperméables à toutes les détresses alors qu'ils sont méchants. Et même, c'est peut-être parce qu'ils pratiquent le mal qu'ils sont replets. Exempt de tourments, il passe à côté des peines. Oui, et le psalmiste Asaph s'interroge et lui dit, j'ai donc cherché à faire le bien en vain, puisque les méchants réussissent. Oui, le doute est permis et il s'en est fallu de peu que le pied d'Asaph et le mien, le vôtre peut-être, ne trébuchent. Mais Asaph, vous lirez le psaume 73, s'est ressaisi et il a vu que le vrai bonheur se trouvait peut-être autre part. Et Pierre aussi, dans le texte que nous suivons aujourd'hui, balaie aussi nos réticences naturelles à l'égard de la pratique du bien. Quand on dit que pratiquer le bien ne paie pas, eh bien il va dire le contraire. Il va dire que faire le bien, c'est justement aimer la vie. Que celui qui veut voir des jours heureux, celui qui veut toucher au bonheur, eh bien qu'il fasse le bien, la pratique du bien serait-elle la clé du bonheur ou serait la clé du bonheur? Et la Bible, parole de Dieu, dit trois fois oui. Et quand Pierre dit « celui qui veut voir des jours heureux, qu'il pratique le bien », on ne doit pas trop spiritualiser les jours heureux en disant que ces jours heureux, ça se passera très loin, peut-être dans le ciel et à la fin des temps, quand tout sera rétabli. Non, pour l'auteur, pour Pierre, pour tous les auteurs du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, il y a des promesses qui sont là à vivre maintenant, sans pour autant évacuer la pleine réalisation encore à venir, mais c'est pour leur vie présente. Pratiquer le bien donne des jours heureux, alors qu'on est encore sur terre, des jours heureux sur la terre. Et dans le livre des Proverbes, cette vérité biblique est dite de manière la plus claire possible. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Et une autre traduction dit, l'homme bienveillant fait du bien à son âme. L'électrocardiogramme, là. Pouf. L'homme qui veille, l'homme bienveillant, l'homme qui veille sur sa pratique du bien nourrit son âme, son jardin intérieur. Et quand j'ai dit cela à l'étude biblique d'Orléans, on est un petit peu en avance à Orléans, sur Pau, par rapport à l'étude de 1 Pierre, il y a un des nombreux médecins qui était là et qui a dit « Mais c'est évident, c'est scientifiquement prouvé que faire le bien, c'est se faire du bien. » Il y a un article sur Internet qui est paru sur un site de psychologie, « 7 bonnes raisons pour se faire du bien ». Vous voyez le « pour le « se ». cette bonne raison de faire du bien. Faire preuve de gentillesse, disent-ils, c'est bon pour la santé psychique et physique. Des études et des observations scientifiques le prouvent. Alors, faire le bien, ça renforce le système immunitaire. Ne me demandez pas comment, mais voilà. Ça soulage la douleur. Ça donne du plaisir. Ça améliore les performances chez les autres. C'est contagieux. C'est motivant. Et puis, le dernier, mais non des moindres, ça rend heureux. Faire du bien rend heureux. Il y a, oui, comme un retour, un feedback à la pratique du bien. Et un commentateur écrivait, c'est celui qui agit qui est le plus affecté par ce qu'il fait. Et faire le bien affecte celui qui le pratique. Je vous raconte une histoire que je vous ai peut-être déjà racontée, oui, mais... En préambule, je dis qu'il n'y a aucune vantardise dans ce que je vais dire. En 2001, encore à Bruxelles, je vous avais dit deux histoires. Orléans, Bruxelles, comme ça vous savez d'où on vient. Deux femmes dans le village de Tervuren, connu pour son chien, le berger de Tervuren, que seule Corinna connaît. Même pas. Si, tu connais. Ouais, ok. Deux dames algériennes, là, parce que je m'approchais d'eux, me demandent de les aider pour leurs pneus crevés. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris ce jour-là, mais j'ai fini par leur prêter ma voiture. Bon, c'était juste une Peugeot 205 Junior, mais quand même. Je ne les connaissais pas. Je leur ai prêté ma voiture pour aller faire ce qu'elles devaient faire. Et puis elles l'ont prise et, deuxième miracle, elles l'ont ramenée. Et je dois dire que j'étais super content d'avoir eu cette idée qui ne me ressemble pas, parce que je suis un petit peu comme la fourmi, moi, dans la fable, qui n'est pas prêteuse. Mais j'ai ressenti comme une espèce de bien-être, de quiétude intérieure, et ce n'était pas l'impression d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire, mais d'avoir fait quelque chose de bien. Et le bien fait du bien. D'autant qu'une heure après, elle est revenue pour rendre les clés avec une bouteille de champagne à la clé. Il n'en fallait pas, j'avais pas besoin de champagne, j'avais déjà mon retour, c'est cette espèce de... Et c'était pas de l'autosatisfaction non plus, c'était d'avoir fait le bien. Et on peut se demander pourquoi nous ressentons ce bien-être quand nous faisons le bien. Est-ce parce que nous recevrions une décharge d'endorphines sécrétée par la glande hypophyse située dans l'hypothalamus. Je ne suis pas sûr de moi, mais je pense. Peut-être. Et beaucoup de gens vous répondront que faire le bien, effectivement, il y a des sécrétions hormonales et ça fait du bien et ça parcourt tout le corps. Mais ce n'est qu'une raison physiologique. Il y a une explication aussi d'ordre spirituel. Et c'est peut-être ça aussi qui déclenche le cerveau. Si faire le bien nous fait du bien, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu qui, par nature, est le bien, est bon, qui est le bien personnifié. Et quand nous le pratiquons, ce bien, nous ressentons comme une adéquation avec ce que nous sommes réellement des créatures de ce Dieu souverain bien. Des hommes et des femmes à l'image de Dieu, le Dieu du bien, ce Dieu qui pratique le bien jusqu'à donner son propre fils sur une croix pour le bien des autres, jusqu'à souffrir lui-même pour notre bien. Un Dieu qui pratique depuis toujours le bien et qui le fera jusque dans l'éternité. Et quand nous pratiquons le bien, nous nous sentons en adéquation avec ce Dieu qui est notre Créateur. Et quand nous faisons le bien, Dieu qui s'y connaît en bien nous sourit. Ou pose son sourire de Dieu sur nous et nous dit, ou se dit lui-même, tu sais, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Ou ce que j'espérais que tu fasses. Et nous sentons ce sourire de Dieu sur nous, cette connivence, cette participation, on peut le dire, à la nature de Dieu, et nous sourions aussi. C'est comme un soleil qui se lève sur notre existence. Et le prophète Ésaïe le dit d'une façon tellement magnifique. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pratiques le bien, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, La lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Quelle promesse pour ceux qui veulent s'engager sur la pratique du bien ou dans la pratique du bien. Et le Nouveau Testament continue avec ce texte bien connu d'Éphésiens 2, 10, qui auparavant 8, 9, ça nous parle de la grâce et dit c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et il ajoute, et quant aux œuvres, aux bonnes œuvres, quant à la pratique du bien, eh bien Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Elles sont là. Et on peut s'engager dans cette voie-là parce que c'est Dieu qui nous la prépare. Et donc, quand nous faisons le bien, nous remplissons l'objectif de notre existence. Quand nous faisons le bien, nous sommes pile poil là où nous devons être. Nous saisissons notre destinée en tant qu'être humain. Et quand nous parlons d'adéquation par rapport à notre destinée, on s'approche de quoi ? On s'approche de la notion de bonheur. Car le bonheur, c'est bien cela. C'est cette impression diffuse, mais claire à la fois, cette conviction qu'on se trouve là où on devait être. Je parlais à la retraite du Conseil avec Dirk. Une étude a été faite sur la notion de bonheur par rapport à son travail. Et ce n'était pas du tout le salaire. Plus on était payé, plus on était heureux dans son travail. Non, c'était l'impression d'être là où on devait être, d'aimer son travail, d'être en adéquation avec son travail, pas du tout le salaire. Bon, quand le salaire suit, c'est pas mal. Là où on est. Oui, il y a un retour à la pratique du bien, pas toujours une bouteille de champagne, mais certainement des bulles dans notre âme, du pétillant dans notre intérieur jusque dans la vie éternelle. Et les destinataires de la lettre de Pierre avaient besoin d'entendre ça parce que dans leur contexte, la pratique du bien n'allait peut-être pas de soi. Ils sont dans un contexte de souffrance assez extrême et ils vivent des situations particulièrement injustes. Tellement injustes qu'ils souffrent alors qu'ils font le bien. Ne rien recevoir en retour alors qu'on fait le bien, c'est déjà difficile. Mais souffrir parce qu'on pratique le bien, c'est encore plus compliqué. Et Pierre les encourage à ne pas se lasser dans la pratique du bien. Et nous pourrions aussi avoir de la lassitude, pour une raison ou pour une autre. Peut-être que nous ne voyons justement plus de bonnes raisons pour pratiquer le bien. Et nous connaissons peut-être ce matin, en cette fin d'année scolaire, une petite ou une grande baisse de régime dans notre motivation à pratiquer le bien. Pierre nous encourage à continuer à être zélés dans la pratique du bien. Et Paul le fait aussi. Ne vous lassez pas de faire le bien aux Thessaloniciens. Aux Galates, il dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement ». Parce qu'on pourrait perdre courage, on pourrait perdre le cœur à pratiquer le bien quand les vents semblent contraires, quand la voie la plus facile serait de ne pas le faire. Quand l'adversaire du bien, le Satan, nous susurre à l'oreille de nous laisser aller. On peut être découragé aussi devant l'immensité de la tâche dans la pratique du bien pour faire une petite différence dans ce monde où le mal abonde. Comment faire le bien et que ça fasse une différence ? Oui, nous pourrions nous décourager de pratiquer le bien. Mais Pierre nous rappelle que là se trouve le bonheur en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Une image qui a été ternie par le péché, c'est-à-dire ce désir insensé de vivre indépendamment de lui. Mais une image qui se trouve renouvelée en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection, qui est devenu vainqueur du mal par le bien de sa vie donné pour nous. Et on connaît le chant, ou peut-être pas, mais je vous le cite, « En lui, nous sommes transformés de gloire en gloire, et notre vie peut dire son histoire, brille sur moi. » Que l'histoire de Jésus, cet homme de bien, brille sur moi et sur toi, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui font chaque jour le choix de faire le bien. Alors la pratique du bien peut prendre différentes formes. Il y aura des pratiques plus élaborées et organisées, comme entrer dans une association ou soutenir une mission, ou au contraire très simple et spontané, sourire à un enfant, faire un cadeau à quelqu'un, offrir son sourire, offrir ses services, parler à une vieille dame, soigner quelqu'un, prier pour quelqu'un, écouter quelqu'un, éviter une colère, ne pas être raciste, relever les choses positives, ne pas critiquer, inviter quelqu'un chez soi, dire un mot sympa. Peu importe le flacon du bien, mais le point est que le bien peut devenir a way of life, une manière de vivre pour ceux qui ont été faits à l'image de Dieu. Il nous faut persévérer dans la pratique du bien parce qu'il y a des beaux jours qui attendent ceux et celles qui s'engagent résolument dans cette façon de vivre. Il y a des jours ensoleillés, comme disait le prophète Ésaïe, sous le soleil de celui qui nous a appelés des ténèbres de notre égoïsme ou de notre centrage sur nous-mêmes, à la pratique, à la lumière de la pratique du bien. Et nous pourrions dire comme Asaph, vous savez, celui qui a failli trébucher alors qu'il voyait le succès du mal autour de lui, nous pourrons dire comme lui, après avoir médité la parole, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur.